toutes et à tous, curieuses et curieux, mi-chaud, mi-cachot, mi-air, misère, bonjour et bienvenue dans l'onde curieuse de ce jeudi 4 avril. Aujourd'hui, on lime les barreaux de nos univers carcéraux et on met en lumière nos nuits de damnés. À l'occasion de 1677, l'autre nouvelle exposition au château Centre d'art contemporain d'Aubenas, visible dès samedi, et grâce à nos deux invités, l'artiste plasticien Nicolas Deban et la chercheuse Fanny Lalande, spécialiste notamment des écritures carcérales. Nicolas, avec vos œuvres de suie, de fer et de sueur, vous forgez une nouvelle vie au murmure des emmurés, au juron des injuriés, à l'enfer des enfermés. Votre œuvre est une dédicace, corps et art, à toutes les vies des ensevelis, à tous les otages de leur propre vie. Et ensemble, Nicolas et Fanny, vous rendez les bagnards bavards et les reclus reconnus. Et avec cette exposition, 1677, écrite en toutes lettres, les numéros deviennent des noms, des histoires, des récits. Les invisibles retrouvent leur papier d'identité et leur lettre de noblesse. Vous orchestrez une révolte, sinon une révolution, une volte-face en tout cas, où la lumière s'attaque à l'ombre, comme dans votre technique du photogramme. Nicolas, fond et forme liés au plus profond. Alors 1677, on en parle, oui, mais 1677, pourquoi ? On en parle dans un instant, après la bise à celui qui est derrière cette vitre, enfermé dans sa cabine. Non, le bonjour. Salut Alexandre.
Salut, salut.
Pour la deuxième fois, bienvenue. Et le bonjour à Marion. Bonjour.
Bonjour.
Qui nous a concocté un petit agenda où il est question notamment de mémoire, de patrimoine et puis de voilà, d'en finir avec cette réclusion.
Alors à Aubenas, l'ACSO, qui est donc l'Association des citoyens solidaires des Oliviers, lance une réunion de présentation. Donc c'est une toute nouvelle structure qui vise à représenter les habitants du quartier des Oliviers, à créer du lien et faciliter les échanges avec les acteurs locaux, notamment autour de la santé de la jeunesse et de la prévention ou encore du cadre de vie. Donc le rendez-vous est donné ce soir à 18h30 à l'espace de vie sociale Combéguerre, dans le quartier des Oliviers, à Aubenas. Et la réunion est ouverte à toutes et tous. Au Teil, le cinéma Le Regain propose une soirée consacrée à la mémoire et à la transmission ce soir. Donc c'est à partir de 18h, vous pourrez assister à la présentation du nouveau numéro de la revue Mémoire d'Ardèche du temps présent, dédiée à la Libération, en présence de plusieurs auteurs et de membres du musée de la Résistance en Ardèche et de la Déportation. Donc la rencontre se poursuivra par un temps d'échange avec le public, puis un moment convivial. Donc l'entrée est libre pour cette première partie. Puis après, à 20h, la soirée se poursuivra avec la projection du film « Une enfance allemande, Hilde d'Amerin, 1945 », réalisé par Fatih Akin. Donc ce film... Hakim, pardon. ce film raconte le regard d'un enfant à la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'entrée est au tarif de 6 euros. À Aubenas, une table ronde est proposée ce soir à 18h30 à La Ferme. Donc, elle est intitulée « Quelles alternatives à la fast fashion ?». Donc, cette rencontre s'intéresse aux enjeux éthiques et environnementaux liés à la mode, entre production à bas coût, surconsommation et impact aussi social, évidemment. L'objectif ici est de réfléchir à d'autres façons de consommer à travers la mode éthique, la seconde main, l'upcycling ou encore le circuit court. Et la discussion sera animée par Elisa Jaffrenou du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche et réunira plusieurs intervenants engagés dans ces démarches, issus notamment de ressourceries et d'initiatives locales. Donc la rencontre dure environ une heure et elle est ouverte à tout le monde et l'entrée est libre. Et d'ailleurs, prochainement, il faut suivre, nous sortirons un nouvel épisode de Central Park qui abordera ce sujet.
Toutes ces questions, ouais.
À Viviers, une conférence encore est proposée demain à 18h30 dans la salle de l'Orangerie à l'Hôtel de Ville. Donc elle est organisée par le Centre international Construction et Patrimoine. Et cette rencontre revient sur l'histoire des corsos et des fêtes des vignerons à Viviers. Donc les corsos, si vous ne connaissez pas, ce sont des défilés festifs souvent composés de chars décorés, de musique et d'animation qui rythmaient autrefois la vie locale, notamment autour de la vigne et des vendanges. Et donc au programme de cette soirée, vous allez avoir la lecture et le commentaire d'un discours du début du XXe siècle, puis la projection d'un film d'archives restauré montrant le défilé de Corso de 1975. Et la soirée se poursuivra par un échange avec le public qui pourra partager ses souvenirs de ces fêtes et plus largement évoquer la place de la vigne dans le territoire. Et toujours, l'entrée est libre. Et pour finir, à Saint-Paul-le-Jeune, une animation autour du compostage et de la réduction du gaspillage alimentaire qui est proposée demain de 9h à midi sur le marché. Donc cette matinée s'inscrit dans l'événement national Tous au compost et vise à sensibiliser aux gestes simples pour mieux gérer ses déchets au quotidien. Donc sur place, vous pourrez obtenir des conseils pratiques, des informations et des astuces pour composter et limiter le gaspillage alimentaire. L'animation est organisée par le projet alimentaire interterritorial en partenariat avec le SICTOBA qui est en charge des traitements des déchets et le collectif Pétale 07, un réseau d'acteurs engagés pour l'éducation et à l'environnement.
Eh bien, merci beaucoup Marion. On parle justement de ceux qu'on considère comme les rebuts de notre société notamment. Et on commence en musique, tu parles de 1975, eh bien tiens, c'est un morceau de 1975, Hexagone.
Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passe les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne. Des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils me font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin débarquement de Normandie. Ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, ne dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de...
Ah, on veut pas te couper le sifflet, Renaud. On t'écoute encore un petit peu. Hexagone, donc Renaud, extrait de l'album Amoureux de Paname. Et c'est l'un de nos deux invités, Nicolas Doman, qui a choisi ce morceau. D'abord, bonjour Nicolas.
Bonjour.
Artiste plasticien, tu es là avec Fanny Lalande. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Chercheuse, historienne, spécialiste de l'histoire moderne.
Exactement, et de l'enfermement.
Et de l'enfermement, voilà, c'est ce qui vous réunit ici dans ce studio confiné. Hexagone, pourquoi hexagone ?
Hexagone parce que le monde ouvrier, voilà, qui est ma première motivation. Mmh. Voilà.
Le monde ouvrier, alors, on va en parler. D'abord, 1677, c'est le nom de cette exposition, donc nouvelle exposition qui va ouvrir ce week-end, donc samedi, au château d'Aubenas, jusqu'au 20 septembre, et peut-être prolongé, on n'en sait rien. 1677, d'abord, pourquoi ?
1677, en fait, c'est quand on s'est revu avec Fanny sur place au château, lors de la visite du château, avec l'équipe du château, je vois Fanny qui me montre avec sa petite lampe un petit graffiti indiqué en chiffres 1677 et elle me confie que ça paraît être, à ce jour, le graffiti le plus ancien relevé dans le cachot du château.
D'accord. Donc, on entend déjà que vous vous connaissez. Comment est née cette exposition ? Parce que là, j'essaie d'aller aux origines, mais 1677, c'est... comment est née votre collaboration au château, Fanny ?
À l'origine, en fait, Nicolas, qui a mené une exposition au Panthéon, recherchait des interlocuteurs, des historiens, mais pas uniquement, pour dialoguer et mener, en fait, une visite de son exposition à deux voix. Et c'est par rapport à ce travail, je pense, autour des écritures carcérales que mon nom est arrivé jusqu'à Nicolas et on a commencé... à discuter, à échanger sur ce qui nous relie tous les deux, donc cette relation à l'enfermement, moi à travers mes recherches scientifiques et Nicolas à travers son expression. Et assez rapidement, enfin je pense dès la première discussion finalement, on en est venu au graffiti carcéral, qui fait partie de mes objets d'étude, et qui est un objet un peu protéiforme, qui est parfois rattaché à des images assez négatives de dégradation, qui peut être aussi vu comme un objet archéologique, un vestige sur un monument, mais que moi j'aborde comme une archive murale et qui vient finalement donner la parole à des gens qui ne la prennent pas nécessairement, qu'on ne retrouve pas en tout cas dans les interrogatoires, etc. Et ça a été le point de départ finalement de nos échanges. Et à ce moment-là, je réalisais... une première série de relevés des graffitis du château d'Aubenas pour lequel j'ai fait une conférence et en discutant avec l'équipe, j'aurais dit avec Nicolas, on aimerait échanger tous les deux sur cet objet un peu particulier qui est le graffiti et finalement, quoi de mieux que ce site pour pouvoir le faire et à partir de là, l'équipe a pris possession de l'idée et est revenue vers nous et on en est là aujourd'hui en fait.
On en est là et avec, donc ça c'est le point de départ et ce qui est aussi très excitant, c'est que vous ne savez pas très bien où tout ça va vous conduire. C'est ça, donc il y a un premier, donc il y a cette exposition, ça c'est sûr, qui est un premier point, mais votre collaboration justement va se poursuivre au-delà, c'est juste ça le point de départ.
Nicolas. Oui, on a prévu, donc on rentre en résidence officiellement à partir du moment du vernissage, en tout cas de ces échanges autour du commissariat de Fanny, autour de cette exposition. Et donc il va y avoir une résidence, qui dit résidence dit recherche, on va revenir se voir sur place, on va revenir à Aubenas passer du temps, se mettre en place un petit espace de travail, laisser des choses. En tout cas, on va essayer de faire germer tout un tas de d'éléments. En fait, en tout cas pour moi, ce qui est excessivement intéressant, c'est que en tant que plasticien qui n'habite pas à Paris, qui voilà, je vis du côté de Perpignan, un peu loin comme ça du centre de la tornade, on va dire artistique. J'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de d'être en discussion avec des personnes qui travaillent plus ou moins sur les mêmes sujets, on va dire. Et là, en fait, c'est l'occasion rêvée. Et à la fois, j'ai besoin d'être tout seul dans mon coin pour travailler. Donc cette rencontre avec Fanny, en fait, elle apparaît aussi personnellement à un moment, un parcours, elle est nécessaire, quoi. Voilà. Moi, j'ai besoin de sortir de ma tanière, de montrer ce que j'ai mis à jour, comment est-ce qu'on peut le confronter. Donc, la résidence au château d'Aubenas, c'est ça, quoi.
Et donc là, vous allez montrer, vous montrer, donc là, dans le cadre de cette exposition, plusieurs choses. D'abord, des œuvres qui préexistent, mais qui là prennent une vie nouvelle et qui racontent des choses nouvelles. Et puis, une œuvre créée aussi spécifiquement pour le château. Qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que tu as fait pour le château ?
Alors, il y a, on va dire, trois ensembles. Il y a une première pièce dans laquelle je réunis pas mal de choses et qui ont déjà été produites, notamment un ensemble autour de la figure de Galilée à la Villa Médicis. Donc voilà, ensemble de dessins et photographies. On a voilà, des choses que j'ai pu faire il y a un moment aussi par rapport au graveur Piranèse, voilà, graveur italien du 18e siècle. Il y a aussi un chapitre que je réveille pour cette exposition autour de la révolte de la prison de Nancy. Donc évidemment, le regard sur la prison, évidemment, se fait aussi par le prisme de la question de la révolte, de la mutinerie.
Mmh, c'était en 72.
En 72, voilà, janvier, 15 janvier 1972 pour être exact. Et en fait, voilà, ça donne une couleur aussi au regard qu'on peut poser sur la prison. Et puis, il y a aussi un ensemble de pièces que j'avais pu réaliser grâce au Centre d'art de la Maréchalerie à Versailles. Une grande pièce que j'intitule « Lalali » en référence à Courbet, qui est le plaquage d'acier de porte cellulaire de la prison des Baumettes que j'ai pu récupérer et qui est présenté telle une peinture d'histoire. Donc voilà, ça, c'est les choses qui ont été faites. Voilà, il y a encore d'autres choses, donc c'est à découvrir. Et il y a notamment, on va dire, un premier embrassement d'idées avec Fanny autour de cette œuvre qui est une cheminée. On a le dessin d'une cheminée et ensuite on a une sorte de nuée, de suie, une sorte de nuage noir en tout cas. J'aime bien l'image du nuage noir, avec l'inscription 1677, qui elle, par contre, cette fois-ci, est en toutes lettres. Voilà. Voilà, en toutes lettres parce que c'est autre chose.
C'est ça, c'est autre chose. Ça ouvre les lettres, c'est ce qu'on... Alors, c'est ce que je disais un petit peu dans l'introduction, et c'est ce qu'on a découvert quand on a pu, Marion et moi, aller voir cette œuvre. Ça déploie, ça déplie des histoires. C'est très long, ça éveille en nous des imaginaires complètement différents.
Il y avait cette idée, en tout cas, dans l'écriture en toutes lettres, d'étirer l'écriture, mais aussi d'étirer le temps. Le prisonnier, en fait, lorsqu'il grave, il a besoin de temps. Alors, il y a certains enduits qui vont recevoir tout de suite l'écriture. C'est le cas, d'ailleurs, à Aubenas. Il n'y a pas besoin de passer vraiment des heures pour pouvoir laisser une trace. C'est un enduit de chaux, donc en fait, une petite pointe, ça suffit. Et puis, on a à l'inverse des graffitis qui ont été tracés parfois dans la pierre, au cœur de molasses, de calcaire, etc., et qui, là, nécessite beaucoup de temps. Moi, j'ai pu réaliser une expérimentation avec un collègue anthropologue qui s'appelle Philippe Hameau, où on nous a donné une pierre et où, en fait, on a, pour comprendre le geste de graver dans la pierre réalisée par le prisonnier, on a essayé, comme ça, de graver. Et ce qui nous est apparu, c'est la notion de temps, en fait, dans laquelle on va se mettre. Le temps de l'écriture, c'est un temps qui est plus long. Et en prison, le temps, c'est une notion qui est centrale, qui est obsédante, en fait. Il y a le temps de l'entrée en prison, il y a le temps qu'on perd en prison, il y a le temps qu'on passe en prison, il y a le temps qu'on tue en prison. Et l'idée de délier les lettres comme ça, c'était aussi déjà de ne pas être dans l'imitation du geste du prisonnier pur et dur, mais d'offrir autre chose de plus long, en fait, finalement, et aussi de revenir sur cette notion du temps. Les graffitis, c'était aussi quelque chose qui était donné à lire aux autres prisonniers, qui pouvaient ajouter des choses, qui pouvaient revenir sur un graffiti, le compléter.
Palimpseste, peut-être.
Voilà, donc on utilise souvent l'image du palimpseste pour le graffiti, mais parfois, c'est pas le recouvrir, c'est ajouter quelque chose, c'est étendre la marque, ou c'est limiter, la recommencer. Donc, dans le temps, le graffiti peut évoluer.
J'ai envie de vous poser une question simple à tous les deux. Pourquoi le monde de l'enfermement vous intéresse tant? Enfermement qui peut être un enfermement social ou un enfermement intérieur? Nicolas.
Pour ma part, bon, voilà, la chose est assez simple, hein, les choses vont très vite pour moi. Enfin, mes parents décèdent de maladies liées au travail en 2002. J'ai 18-19 ans. Je vais jusqu'au bout du système scolaire, lycée, bac, etc. Et puis ensuite, je me mets à évoluer un peu tout seul. Je vois une exposition assez tardivement, à 22-23 ans. Et à ce moment-là, je découvre un monde qui m'intéresse. Je me dis, voilà, moi j'ai envie de faire ça. Enfin, il y a vraiment une découverte comme ça. Alors je tombe amoureux de la question artistique, mais en me disant, quitte à être au monde et ne pas trop s'ennuyer, je pense que ça, c'est pas mal. Voilà, c'est vraiment le résumé. Et finalement, quand je rentre en école d'art, etc., concours et prépa passé, en fait, tout simplement, je me dis, mais moi, je veux faire des œuvres qui parlent de ce qui m'intéresse et de ce qui est au plus profond de moi, mais je ne veux pas être dans une autobiographie qui soit trop dans le pathos. Donc, je voulais éviter de parler de ce qui m'intéresse au premier degré, c'est-à-dire la question de la lutte des classes, en faisant un pas de côté. Et je choisis, dès mes études, d'aller en prison, discuter avec des gens en prison, des hommes, des femmes, des ados aussi, et de discuter de la société avec eux. Et de se dire où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, comment est-ce qu'on fait avec tout ça. Voilà. Et ça part de là, et puis après j'y mets le doigt, et puis c'est l'engrenage, quoi. Et puis ça fait maintenant 20 ans que je n'arrête pas de sillonner prison, espace carcéral et autres. Et des choses, je rentre bientôt en résidence dans un hôpital psy. Donc voilà, je tourne autour de mon propre sujet sans y mettre les pieds à pieds joints dedans, quoi, en tout cas.
Et la technique, enfin, tu utilises plusieurs techniques, mais là on en voit dans certaines œuvres, cette technique, la fête de l'email notamment, de faire, pour toi c'est une évidence de t'emparer même corporellement, parce qu'il y a quelque chose d'assez physique là-dedans. Le fond et la forme, là, sont complètement liés.
Oui, en fait, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que quand on découvre tardivement la question de l'art et qu'on y baigne pas trop tôt, avec des outils qui sont des évidences, comme du pastel, la peinture, je sais pas quoi, du crayon, tout d'un coup, on se sent plus libre, c'est-à-dire que moi, je me dis, bon, je peux faire du dessin avec quelque chose qui est sensiblement noir sur un papier blanc. Et là, l'image, en fait, elle arrive parce que moi, j'ai envie de travailler avec des outils d'ouvrier. Donc, dans des usines, qu'est-ce qu'il y a par terre ? Il y a de la sciure, mais il y a aussi de l'acier. Donc, évidemment, voilà, j'ai envie de travailler avec ce résidu, avec cette poussière d'atelier que j'ai bien connue personnellement quand j'étais un peu plus gamin. Et ensuite, aussi, il y a l'attitude. C'est-à-dire que moi, j'arrive à Aubenas avec mon trafic, j'ouvre les portes de l'arrière de mon camion, je sors mes outils et de la façon dont je fais ce dessin... au château, c'est un peu de la façon dont on pose un crépi. Voilà. Et ça, c'est important pour moi. C'est-à-dire que c'est un geste, hein, c'est un geste d'ouvrier, mais qui, je suis chaussé dans cet habit d'artiste qui me va pas trop mal. Moi, ça me va, en tout cas. Voilà, pour évoluer, ouais.
Tu brouilles un peu les frontières, quoi.
Bah, je pense que c'est nécessaire, de toute façon, être... étant donné le milieu qui nous est offert dans le monde de l'art, il faut être à la frontière. Si tu es au centre,
t'es enfermé peut-être.
Ça n'ira pas bien. Voilà, il faut être en périphérie, mais il faut choisir sa périphérie. Il faut choisir sa frontière. C'est-à-dire que, moi je rencontre des gens. Je pense notamment à Aurélie Dessert, qui est la directrice du mémorial de Montluc à Lyon, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, accompagné dans le travail sur la question mémorielle. Je pense notamment aux personnes que j'ai rencontrées au Panthéon. Et puis là, Fanny, c'est-à-dire que moi j'ai eu des bonnes et mauvaises expériences avec des historiens. Mais là, tout d'un coup, je découvre une autre façon d'aborder les choses. Donc ça c'est intéressant.
Que tu décrirais comment cette manière d'aborder l'histoire qui te plaît et qui fait que tu es...
En
compagnonnage avec Fanny.
En fait, pour moi, il y a une forme de simplicité puisqu'on est en contact avec la matière. C'est-à-dire que, alors là, pour le coup, c'est pas moi qui tient cette phrase, c'est ma compagne Juliette Belleret qui écrit parfois sur mon travail et sur d'autres artistes, enfin bref. Et en fait, elle a réussi à résumer en une phrase ce que je pense, et j'ai mis voilà, longtemps, chacun son domaine, je n'écris pas. Donc, elle dit, mais en fait, ce que tu penses, peut-être, c'est celui ou celle qui touche la matière a raison. Mmh. Ben, ça, c'est, ouais, c'est exactement ça, c'est exactement ça pour les ouvriers. Celui qui pose le carrelage, il a raison, c'est par l'architecte. Celui qui touche la matière, l'artiste, a raison, c'est pas le commissaire. Et finalement, avec Fanny, ce que je retrouve, c'est une historienne qui touche la matière. Elle a raison. Voilà, c'est, pour moi, c'est aussi simple que ça, quoi.
Fanny.
Waouh. Ok. La matière, oui, c'est ce qui nous relie, je pense. Effectivement, avec Nicolas, que je connais moi très peu finalement, ça fait quelques mois, et je pense qu'on a aussi cet héritage familial ouvrier. Voilà, et moi je suis un peu un ovni dans ma famille, à m'intéresser à ces mots, et je me vois aussi effectivement comme ça, c'est-à-dire que je suis historienne, mais j'ai mes outils, et je vais aller récolter de la matière. Et finalement, c'est aussi le regard qu'on porte sur l'enfermement. Et moi, je m'intéresse à la matérialité de l'enfermement. La prison, c'est pas juste une peine, c'est un lieu, c'est un espace, et c'est comment on se positionne dans cet espace. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'historiographie carcérale s'intéresse à la matérialité de la prison, c'est-à-dire qu'on prend la prison pour terrain, la prison comme terrain. Et que du coup, je dois aussi aller me mettre en périphérie et aller chercher des archives qui sont à la marge. Parmi ces archives, il y a celles qu'on n'a pas forcément conservées, qui n'ont pas été tracées sur des supports destinés à les recevoir. Je pense à ces archives judiciaires qu'on classe aux archives départementales, qui sont ma première matière, hein, c'est vrai. Mais à côté de ça, il y a l'écriture qu'un prisonnier a pu laisser sur un vêtement. Sur de la vaisselle, sur son mur, et qu'on retrouve aujourd'hui dans des formes d'enfermement tout à fait, des enfermements contemporains. Je pense à des femmes iraniennes, moi j'ai pu en rencontrer, qui sont sorties de prison, et qui avaient l'écriture comme ça, comme un petit trésor, en fait. Et qui écrivaient sur les portes de leur prison et ou qui pouvaient transmettre des petits billets, etc. Et c'est cette écriture à la marge qui m'intéresse. Et enfin, il y a le graffiti lui-même dans toutes ces écritures, qui est effectivement une matière particulière parce que c'est une matière où on a enlevé la matière, en fait. Et c'est cette absence-là qui donne la présence de celui qui a écrit pour qu'il y ait cette matière qui a été enlevée, fallait qu'il y ait une présence. Et à travers cette matière enlevée, c'est la force de l'absence qu'on note et qu'on recherche. C'est le prisonnier, en fait.
J'ai l'impression que ça fait aussi écho avec, pareil, ta technique, enfin l'une de tes techniques, justement, de retirer. Tu retires de la matière, Nicolas.
Oui, en fait, c'est la question de retirer de la matière. D'ailleurs, en termes de sculpture, c'est pas inintéressant. Hein. C'est qu'il y a la sculpture qui est dans laquelle on vient modeler de la terre, on humidifie, on ajoute, etc. Voilà, c'est très beau. Il y a quelque chose qui est parfois même sensuel. Moi, je préfère la frappe sur la pierre, quoi. Quelque chose de plus dur, quoi. De plus dur, mais ça n'empêche pas la dureté, la précision, la délicatesse, etc., etc. Et c'est vrai que le geste dur en art, bah, c'est un geste plein d'énergie, plein de vie. C'est vrai que j'entends beaucoup que la prison, les cachots, etc., c'est très triste, etc., mais il y a quand même une force vitale absolument dingue. Voilà, c'est ça qui nous anime, voilà.
Ben, j'ai envie de rester là-dessus parce qu'il me semble effectivement que c'est cet élan vital, cette force vitale qui émerge aux marges de ce que vous racontez tous les deux. Alors, ben, j'invite les auditrices et auditeurs dès samedi à aller voir cette exposition 1677 et puis à suivre l'évolution. Donc, qu'est-ce que ce début de compagnonnage va donner Fanny Lalande, Nicolas Dauban. Donc, à suivre. En tout cas, merci beaucoup tous les deux d'être venus ici à Fréquence 7.
Merci.
Merci.
Et merci Marion pour la préparation de cette émission. Merci beaucoup Alexandre pour ta deuxième.
Avec plaisir.
Formidable. On se retrouve. On est quand ? Mais non, on se retrouve lundi. Ah oui, lundi, on sera avec l'écho de la Réhab, justement, alors qu'ils sont en milieu ouvert, mais l'écho de la Réhab, ce sont nos amis du collectif de réinsertion psychosociale de l'hôpital psychiatrique de Sainte-Marie. Et d'ici là, restez à l'écoute de Fréquence 7. D'ailleurs, pas plus tard que cet après-midi, dans 2h30, le Telex à 15h. À 17h, ce sera la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, la collective qui se penche sur ce qui enferme bien des gens dans une sexualité contrainte, c'est-à-dire le porno. Et à 20h, la tête dans le sillon, les trois fous furieux du vinyle vous emmènent dans le temps. C'est ça, dans la durée, autre thème donc qui vous est cher à tous les deux, avec chacun leur galette sur le sujet. Et nous, on se retrouve demain pour du cinéma avec Cinémascope. Ciao.